Il existe un jeu amusant qui consiste à marcher au son de la musique et dès qu'elle s'arrête, on doit s'asseoir sur l'une des chaises disponibles. Le hic est qu'il en manque toujours une, ce qui fait que l'un des participants est éliminé et les autres se trouvent souvent à moitié assis entre deux chaises. C'est drôle parce que c'est un jeu. Mais dans la vie, être entre deux chaises est très inconfortable. C'était pourtant la situation spirituelle de certains juifs du 1er siècle qui pratiquaient encore quelques aspects du judaïsme, tout en croyant que Jésus-Christ était le Messie, mais ils hésitaient à l'accepter comme leur sauveur. Le chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux continue l'avertissement que l'auteur a déjà donné quand il a dit « N'endurcissez pas vos cœurs comme vos ancêtres ». Ce n'est pas que ces Juifs sont particulièrement accrochés à leur religion, car ils la pratiquent surtout pour la forme, pour se conformer au groupe auquel ils appartiennent. Par contre, et c'est là le point important, ils savent qui est Jésus-Christ et ont compris en quoi consiste la bonne nouvelle, mais ils ne se sont pas encore confiés en lui. Alors maintenant, l'auteur serre les boulons et les met au pied du mur en leur disant de tirer les conséquences de l'incrédulité de leurs ancêtres dont il a déjà longuement parlé. Je commence à lire le chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux. Ainsi donc, pendant que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu est toujours en vigueur, craignons que l'un d'entre vous ne croie qu'il soit venu trop tard. Verset 1. À moins de souffrir de troubles affectifs et émotionnels, la crainte est un sentiment bénéfique qui a pour but de nous protéger du danger. Si je vois soudainement un taureau débouler dans ma rue, je ne me contenterai pas de me mettre sur le côté, mais je m'écarterai le plus loin possible du trajectoire de la bête. Quand mes enfants étaient petits, je leur ai enseigné à bien regarder des deux côtés de la route avant de la traverser, et je les avertissais sévèrement afin qu'ils apprennent à avoir peur des voitures. Jésus aussi a prononcé plusieurs fois des paroles sévères et même à vous glacer le sang. Un jour il a dit « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr, corps et âme, dans l'enfer. » En effet, Dieu seul a le pouvoir de condamner et c'est lui qu'on doit craindre. La perspective du jugement éternel devrait inspirer un sentiment de terreur de la part des incrédules, mais ce n'est pas le cas. Le croyant, par contre, n'a aucune raison de craindre, car Jésus a dit à ceux qui lui faisaient confiance « N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. » Et l'apôtre Paul écrit « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» Le croyant devrait cependant éprouver une crainte révérentielle envers Dieu, inspirée par le respect et le désir de l'honorer. Mais celle-ci n'a rien à voir avec la crainte dont il est question ici. L'expression « entrer dans le repos » veut dire « arrêter ce que je suis en train de faire, cesser le travail ». Dans l'Ancien Testament, le repos de Dieu est souvent mis en parallèle avec la possession de la terre promise. Je lis un passage. « Vous allez traverser le Jourdain et vous habiterez le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne comme patrimoine. Il vous fera connaître le repos, une existence paisible en vous délivrant de tous les ennemis qui vous entourent, et vous habiterez en toute sécurité dans le pays. » La première signification du mot « repos » est donc l'accès à l'héritage de Dieu qui commence par le salut que chacun peut recevoir, ce que l'auteur a déjà dit au premier chapitre. Comme Dieu donne sans compter, ce salut et ce repos incluent toutes les bénédictions que le Père Céleste réserve à ses enfants, maintenant, dans l'avenir, pendant le royaume et pour l'éternité. Le repos de Dieu avait une résonance particulière pour les Hébreux qui pratiquaient le judaïsme, car les règles qu'ils devaient suivre étaient très exigeantes. L'auteur les exhorte donc d'abandonner ces pratiques et d'entrer dans une paix qui consiste à faire simplement confiance à Jésus-Christ. Il n'est pas nécessaire d'essayer de satisfaire Dieu avec des rites et des exercices légalistes qui, de toute manière, sont des œuvres charnelles, stériles, dépourvues de tout mérite. Le repos que Dieu accorde est gratuit car c'est un don de sa grâce. Pour un croyant, le repos peut être comparé à un diamant à plusieurs faces. C'est premièrement être en paix avec Dieu grâce au sacrifice de Jésus et donc être libre de toute condamnation due à son péché. Deuxièmement, le repos de Dieu, c'est avoir la certitude inébranlable que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, au point où chercher ailleurs ne me vient même pas à l'esprit. Les nouvelles croyances à la mode ne m'attirent pas, mais me font sourire, car personnellement, je suis ancré en Jésus-Christ et donc délivré de l'errance qui consiste à aller d'une philosophie ou d'une religion à une autre. Je sais en qui j'ai cru et je connais le Dieu véritable. Troisièmement, et je n'en suis pas encore là, le repos de Dieu, c'est avoir une telle confiance en sa puissance et en son amour pour moi que je suis libéré du poids de mes soucis, que je vis dans une tranquillité d'esprit quasi parfaite, parce que Dieu porte lui-même mes fardeaux, parce que je sais qu'il dirige tous mes pas, qu'il est là pour me soutenir et que je peux toujours compter sur lui. Cela ne veut pas dire qu'on n'est jamais sous pression ou qu'on n'a pas les mêmes tracas que tout le monde, mais le stress n'est pas accablant. J'ai déjà dit ces paroles extraordinaires de Jésus, mais je veux les répéter ne serait-ce que pour moi-même. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Fin de citation. Il existe encore deux autres repos de Dieu qui sont mentionnés dans les Écritures, et la nouvelle humanité en jouira d'abord dans le millénium et ensuite dans les cieux pendant l'éternité. Ces expressions ultimes du repos de Dieu seront accordées à tous les croyants de tous les temps parce qu'ils sont enfants de Dieu et frères de Jésus-Christ dans une relation filiale avec le Père Céleste. Israël n'a jamais connu la plénitude de ce repos à cause de son incrédulité. Pendant que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu est toujours en vigueur, craignons que l'un d'entre vous ne croie qu'il soit venu trop tard. Cet avertissement est aussi une menace dont nous ferons bien de tenir compte. Certains Hébreux pensaient que la porte du salut leur était fermée, mais il n'en est rien. Ce n'est pas trop tard, car pour l'instant, Dieu tient encore la porte ouverte et chacun peut entrer dans son repos. Quand les Israélites ont été forcés de choisir si oui ou non ils obéiraient à l'Éternel en faisant la conquête du pays de Canaan, ils ont décidé à la quasi-unanimité d'y renoncer. La conséquence fut tragique, car ils n'ont pas eu droit à une autre chance. En refusant l'offre de l'Éternel, ils ont fermé la porte qui leur donnait accès au repos de Dieu et ils sont tous morts dans le désert. Mais, dit l'auteur aux Hébreux, nous n'en sommes pas là. Alors n'allez pas penser que vous ne pouvez pas recevoir le salut en Jésus-Christ, mais dépêchez-vous de l'accepter. Aujourd'hui encore, tous ceux qui entendent l'appel de Dieu peuvent y répondre, mais attention à ne pas reporter cette décision car nul ne sait combien de temps durera l'offre d'entrer dans le repos de Dieu. Cet avertissement concerne tous les non-croyants, qu'ils soient juifs ou pas. Tant qu'ils ont l'opportunité d'accepter Jésus, ils doivent veiller à ne pas endurcir leur cœur à son égard comme la première génération des Hébreux qui ont quitté l'Égypte. Bien qu'ils y menaient une existence misérable, leur incrédulité était telle qu'ils ont désiré y retourner, reprendre leur ancienne vie d'esclave, au lieu de placer leur foi en l'Éternel. Je continue le texte. Car nous aussi, nous avons entendu la bonne nouvelle, tout comme eux, mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Verset 2. La bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, tout comme la promesse que l'Éternel avait faite aux Hébreux est l'annonce d'un repos de Dieu. Et dans les deux cas, il est nécessaire de le saisir par la foi. Entendre parler de Jésus est une condition nécessaire, mais non suffisante pour parvenir au salut. Les Hébreux savaient pertinemment bien que l'Éternel voulait leur accorder son repos, mais cette connaissance ne leur a servi strictement à rien parce qu'ils n'ont pas eu confiance en lui. Il n'y a aucun intérêt, aucun avantage à s'intéresser au Christ si on ne l'accepte pas à titre personnel. Un jour, Jésus a dit à ses contemporains incrédules, « Dès que le maître de la maison se sera levé et qu'il aura fermé la porte à clé, si vous êtes restés dehors, vous aurez beau frapper à la porte en suppliant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous venez. » Alors vous direz « Mais nous étions à table avec toi, nous avons mangé et bu sous tes yeux, tu as enseigné dans nos rues. » Il vous répondra « Je vous le répète, je ne sais pas d'où vous venez. Allez-vous-en, vous qui commettez le mal. » Fin de citation. Et l'apôtre Paul écrit « Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. » Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. Les juifs étaient très fiers d'être descendants d'Abraham et de posséder la loi, mais ils ne lui obéissaient pas. Si je suis arrêté pour excès de vitesse, je ne vais pas dire aux gendarmes que j'ai toujours un exemplaire du code de la route sur moi, ou que je l'ai appris par cœur, parce qu'alors ma culpabilité sera d'autant plus grande, puisque je connais bien le règlement et que je l'enfreins. Sous l'ancienne alliance, le vrai juif était celui qui mettait la loi en pratique, mais qui avait foi en l'Éternel, son Dieu. Aujourd'hui, nous sommes sous le régime de la nouvelle alliance et de la grâce, et être croyant ne consiste pas à bien connaître les textes sacrés ou à savoir qui est Jésus, mais à lui faire confiance pour son salut. Il a dit aux Juifs, « Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. » La foi en Jésus sauve et l'incrédulité condamne. La bonne nouvelle en est seulement une pour ceux qui l'acceptent dans leur cœur. Je continue le texte. « En effet, c'est nous qui croyons, qui entrons dans ce repos conformément à la parole de Dieu quand il a dit « C'est pourquoi dans ma colère j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans mon repos. » C'est ainsi que Dieu a parlé alors que son œuvre était achevée depuis la création du monde. Verset 3. La foi est l'élément déterminant pour entrer dans le repos de Dieu. Comme elle manquait aux Hébreux, ils sont morts dans le désert. Par contre, puisque les vrais croyants ont effectivement placé leur confiance en Jésus, ils obtiennent la vie éternelle sur la base de leur foi. Après que Dieu ait créé le monde, il a dit, je paraphrase, « J'ai terminé et c'est parfait. J'ai donné à l'homme et à sa compagne tout ce dont ils ont besoin pour qu'ils puissent jouir d'une existence agréable et satisfaisante. Maintenant, je vais me reposer et ils peuvent se reposer en moi, mais à condition qu'ils me fassent confiance. » On connaît la suite. Adam et Ève n'ont pas cru Dieu et lui ont désobéi. Dès le début, la foi était le trait d'union et fondait la relation entre l'homme et son Dieu. Je continue. En effet, il est dit quelque part à propos du septième jour, « Et Dieu se reposa le septième jour de tout son travail. » Et dans notre texte, il dit, « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Versets 4 et 5. C'est un peu compliqué parce que l'auteur établit un parallèle entre le repos dont le Créateur a joui après avoir achevé la création et l'absence de repos des Hébreux parce qu'ils n'ont pas fait le travail que Dieu leur demandait et qui était de conquérir le pays de Canaan. Quant au sabbat du peuple juif, il a été institué en attendant le véritable repos qui est en Jésus. Parce qu'il est lui-même le sabbat, Jésus ne tenait guère compte du septième jour quand il était sur terre et il n'est plus considéré comme devant être respecté dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul écrit, Ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, la réalité est en Christ. Par leur foi en Dieu, les croyants peuvent jouir du repos de Dieu chaque jour de la semaine et pas seulement le samedi. Avant qu'ils ne désobéissent à leur Créateur, Adam et Ève connaissaient une paix parfaite. Ils ne savaient pas ce qu'était la tristesse, les soucis, la souffrance, la frustration et l'angoisse. Ils n'avaient pas besoin de réconfort ou d'encouragement parce qu'ils ignoraient l'échec et la peine. Ils vivaient littéralement de l'amour de Dieu et avaient seulement besoin de sa compagnie parce qu'ils avaient été créés dans ce but. Pour lui, ils étaient son œuvre et se reposaient en lui. Mais quand ils ont choisi de croire le mensonge de Satan et de ne plus faire confiance en Dieu, ils ont tout perdu et surtout son repos. Et depuis ce jour, l'homme est agité et anxieux. Depuis lors, toute l'œuvre de Dieu a pour objectif notre rédemption, afin que nous puissions revenir à lui et goûter à nouveau son repos. Dans ce but, le Père a envoyé le Fils afin qu'il ôte le péché, l'obstacle qui sépare l'homme de son Dieu. C'est par Jésus et lui seul que le repos est accessible à tous ceux qui lui font confiance. Je continue le texte. Il demeure donc établi que certains doivent entrer dans ce repos, or ceux qui ont les premiers entendu cette bonne nouvelle n'y sont pas entrés parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Verset 6. Malgré la faute de l'homme, l'objectif que Dieu s'est fixé sera atteint et il a décrété que certains entreraient dans son repos. L'apôtre Paul écrit « Dans le temps présent, il subsiste un reste que Dieu a librement choisi selon l'élection de sa grâce. » Fin de citation. Le chemin qui conduit au repos de Dieu a toujours été étroit et comparé à la masse de l'humanité, seuls quelques-uns le trouvent. Jésus a dit « Entrez par la porte étroite, en effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie. Qui sont peu nombreux ceux qui les trouvent. » Le salut dépend de l'homme qui décide d'accepter Jésus, mais surtout de la volonté souveraine de Dieu qui a prédestiné les élus, c'est-à-dire choisi ceux qui seraient sauvés avant même de créer l'univers, selon ce qu'écrit l'apôtre Paul. Et Jésus a dit, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Personne ne peut venir à moi si cela ne lui est accordé par le Père. » Fin de citation. Je m'en rends tout à fait compte que ces paroles sont surprenantes, car elles semblent dire que tout est joué d'avance. Pourtant, et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, Dieu offre la vie éternelle à tous les hommes, et ils ont vraiment la liberté d'accepter ou de rejeter Jésus. Je lis un passage. Or voici que, fermant les yeux sur les temps de l'ignorance, Dieu fait maintenant savoir aux hommes d'avoir tous et partout à se repentir parce qu'il a fixé un jour pour juger l'univers avec justice par un homme qu'il y a destiné, offrant à tous une garantie en le ressuscitant des morts. Les Écritures enseignent à la fois le libre arbitre de l'homme et la souveraineté absolue de Dieu, mais nous ne sommes pas en mesure de comprendre comment ces deux axiomes, qui sont aussi vrais l'un que l'autre, s'articulent ensemble. Cela fait partie des mystères que Dieu ne nous a pas révélés. Je continue le texte. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour qu'il appelle aujourd'hui lorsqu'il dit beaucoup plus tard dans les psaumes de David ces paroles déjà citées. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. Verset 5. Dieu renouvelle l'offre d'entrer dans son repos, mais il demande une action immédiate. Cette occasion d'accepter Jésus prend fin à tout jamais au moment de la mort. Quand on est jeune, on croit pouvoir disposer d'un temps quasi infini pour se décider envers Jésus-Christ. puis à l'âge adulte, les responsabilités pressantes m'empêchent de réfléchir sérieusement à l'éternité. Quand sonne l'heure de la retraite, je suis devenu plutôt indifférent aux réalités spirituelles. Et puis, j'ai autre chose à faire. Il faut que je remplisse ma vie de loisirs pour rattraper le temps que j'ai perdu à travailler. Et une fois que j'ai atteint l'âge d'or, je suis endurci par la vie et mon cœur est devenu trop froid pour entendre l'appel de Dieu qui n'est plus qu'un faible écho dans le lointain. Dans une de ses épîtres, l'apôtre Paul cite un passage de l'Ancien Testament pour souligner la nécessité urgente d'accepter la grâce de Dieu qui est offerte à tous dans le temps présent. Il écrit « Dieu déclare dans l'Écriture « Au moment favorable, j'ai répondu à ton appel, et au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant le moment tout à fait favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. » Fin de citation. Il est impératif de prendre cette décision tout de suite et de ne pas la remettre à plus tard, car vous ne pouvez pas être certain que demain Dieu vous prêtera vie. En effet, pour chacun de nous, Dieu limite le temps du salut et tout ce dont nous disposons est ce moment présent, l'aujourd'hui qu'il nous donne maintenant. Personnellement, il y a déjà longtemps que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, mais je ne peux pas le faire pour vous.